Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Je suis ravie, chers auditeurs, de recevoir aujourd'hui Chantal Aïra-Crouan. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Vous êtes architecte, tout d'abord architecte, puisque c'est le titre le plus important. Donc architecte, vous êtes aussi architecte donc associée au groupe Cardam, directrice du développement spécialisé, directrice de l'agence Île-de-France. Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser votre parcours? Parce que avant d'être dans le groupe Cardam, vous avez été, je pense, quelques années chez Christian de Portzamparc.
Exactement, et ça a même démarré bien avant. Je suis architecte et fille d'architecte. Donc,
quelle lignée?
Une lignée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'est assez naturel. J'ai grandi, je me suis baladée parmi des dessins, des coloriages, des maquettes. Et très vite, j'ai dit que je voulais également faire ce métier.
Une évidence.
Une évidence, exactement. Une passion. Et donc, en effet, j'ai travaillé pendant 16 années aux côtés de Christian de Portzamparc. Donc, une grande chance, une très, très belle formation qui m'a permis de travailler sur des très grands projets, de travailler aux côtés de quelqu'un merveilleux, très compétent, premier Pritzker français. Voilà, travailler.
Donc, sur des objets complexes ou avec une mixité d'usages, ont donc déjà peut-être aussi les prémices de ce que vous faites aujourd'hui chez Cardam.
Tout
à fait. Parce qu'au fond, Portzamparc, on sait très bien, est quelqu'un qui a beaucoup innové dans la mixité d'usage. Hein.
Oui, et puis qui a une grande réflexion sur la ville et sur tous les enjeux qui nous attendent aujourd'hui et dans les années à venir.
Et alors du coup, vous intégrez au bout de 16 ans, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, vous avez eu envie de passer d'une agence d'architecture et d'urbanisme telle que Christian de Portzamparc? Au groupe Cardam, c'est complètement une autre échelle, c'est d'autres types de management. C'est quoi cette décision?
Alors déjà, c'était un peu essayer de voler de ses propres ailes, voilà, donc de me détacher un petit peu de tout ce que j'avais appris près de Christian de Portzamparc. Rejoindre le groupe Cardam, parce que Cardam est quand même un groupe assez étonnant sur le sol français qui propose une composition pluridisciplinaire et une façon de travailler qui n'existe pas en France, plutôt anglo-saxonne. On a ces différents métiers qui proposent une transversalité et nous permet d'approcher en fait notre métier de façon différente. Il m'a permis de me re-questionner sur des fondamentaux de l'architecture à côté d'autres métiers, d'autres sachants, des chercheurs également.
Ça veut dire que, en tant que responsable de l'agence d'architecture Île-de-France de Cardam, vous ouvrez, on va dire, les savoirs à la ville, donc l'urbanisme, le paysage, le bâtiment avec sa façade, l'énergie, le bâtiment, l'intérieur. C'est-à-dire que tous ces domaines sont développés?
Ah oui, alors on en développe beaucoup, pas tous, hein, le paysage aujourd'hui, pas encore.
Mais ça va venir, on est d'accord.
J'espère. On a de très bons partenaires pour le moment. Nous, on croit à l'intelligence collective. Aujourd'hui, on est face à des enjeux très complexes. Et en ça, on se dit qu'à plusieurs, on est plus fort. Et donc, justement, on essaye d'avoir une approche humble, mais plurielle et assez singulière.
Alors, pour parler, je dirais, de nos enjeux, on sait très bien aujourd'hui que le discours n'est pas de construire nécessairement, mais il est aussi de déconstruire. Il est aussi d'apporter plus d'espace vert dans la ville, d'avoir plus de surface perméable, donc moins de surface imperméable, moins de voirie, moins de dalles, etc. Comment construit-on ces 20 années à venir avec l'enjeu incroyable de devoir construire et de devoir répondre à ces attentes de moindre densité de la population? Et au fond, comment on arrive à tricoter ce futur, hein?
Alors, pas simple. Les enjeux sont assez énormes et on n'a jamais été face à de tels enjeux. Donc, il faut vraiment changer notre façon de faire. Les enjeux, j'en vois deux principaux. Donc, continuer de servir l'homme. Bien sûr, on est tous là pour faire en sorte que l'individu vive mieux. L'être humain en tant qu'individu, mais l'être humain en tant que population humaine. On sait que d'ici 30 ans, en fait, la population mondiale va augmenter de 2 milliards de personnes. Si je lisse ces 2 milliards de personnes sur ces 30 prochaines années, ça veut dire que chaque année, la population mondiale grandit de la taille de la population de la France. Donc oui, il y a un enjeu à venir mettre un toit sur ces nouvelles populations, donc un toit, voire un double toit, parce qu'il y a le toit de la maison, le toit du travail. Donc cet enjeu, il est là, et il est aussi sur l'environnement. Il faut respecter l'environnement, et comment allons-nous faire pour produire autant de bâtiments, de services demain. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a 50% de la population qui habite en ville. Dans 30 ans, il y aura 75% de la population qui habitera en ville.
Donc, ça veut dire qu'il y avait des besoins croissants.
Exactement.
Avec une manière de travailler aussi différente, une manière de vivre différente. Des demandes vraiment en mouvement par rapport à cet état d'esprit d'usage de la voiture, d'usage des mobilités. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment prendre en compte tout cela ?
Tout va très vite, en fait. Il faut s'ouvrir au changement, pouvoir être résilient, en fait, se dire que... ça, c'était une phrase de Christian de Porzampar. Le durable, c'est le transformable, mais il a raison. Le durable, c'est pas le réversible, c'est vraiment le transformable. On ne connaît pas demain, mais on doit pouvoir accueillir demain. L'enjeu environnemental aussi, dans notre façon de faire, c'est optimiser la matière. Les ressources premières risquent de nous manquer. Donc, on doit consommer différemment, on doit construire différemment. Donc, aujourd'hui, je ne saurais pas dire ce qui est bien ou pas. Je pense qu'il y a une vraie réflexion sur la mixité à avoir. Je ne saurais pas vous dire entre le béton et le bois, c'est des choses très...
Bien sûr, mais ça, c'est un des thèmes qu'on a abordé lors de notre rendez-vous précédent avec le groupe Cardam, avec le
Cradle to Cradle avec David Abrias.
Voilà, exactement. Donc là, quelque part, on est dans cette continuité et c'est formidable. Mais du coup... Travailler l'énergie, travailler les bâtiments, travailler les matériaux, est-ce que le BIM peut nous donner quelque part des clés pour la réversibilité, pour la transformation, pour l'entretien ?
Alors tout à fait. Je vous dirais même que c'est une des solutions et un intérêt principal du BIM. Le BIM, c'est quelque chose qui peut paraître effrayant, mais le message que j'ai envie de passer sur le BIM... pour les clients, pour les utilisateurs, pour demain, c'est facile. Voilà. Le démarrage est certes un peu complexe.
Compliqué. Ouais.
Certes un peu complexe. C'est une autre façon de faire. Mais toute la chaîne du BIM est une vraie chaîne de création de valeur, en fait. Alors, oui, l'architecte est au démarrage de ça dans la conception avec nos partenaires ingénieurs. Oui, après, donc, les entreprises prennent la main dessus.
Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les entreprises sont vraiment innovantes en la matière ou en tout cas suivent vraiment ces réflexions ?
Alors, comme dans tout démarrage, hein, y en a qui sprintent et puis il y en a qui se lèvent doucement, mais qui vont plus loin. Donc, chacun a son rythme. Ce qui est important, c'est qu'on y aille tous ensemble. Et aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour le BIM et il y a un vrai intérêt sur améliorer notre conception, améliorer notre respect de l'environnement. Avec la maquette BIM, on sait faire des modélisations très précises qui vont nous permettre d'optimiser les ressources, d'optimiser les consommations énergétiques et vraiment d'arriver à une conception beaucoup plus fine. Donc j'y crois beaucoup, j'y crois également pour l'utilisation, pour l'exploitation des bâtiments et puis pour le cycle de vie du bâtiment. Parce
Bien sûr.
C'est vrai qu'on parle de...
À la fois son entretien et à la fois la déconstruction.
Exactement. Aujourd'hui, c'est très difficile de venir déconstruire un bâtiment et de se dire « ça, on peut le réemployer, ça, on ne peut pas le réemployer ». Enfin voilà. Demain, avec cette maquette BIM qui sera le clone informatique en fait, du bâtiment qu'on aura fait, il y aura une traçabilité des matériaux et on saura... Il y a une perte de données aujourd'hui. Quand on travaille sur une réhabilitation, moi, je suis toujours effarée de la difficulté à laquelle on fait face, en fait, où on manque éperdument de documents. Seul l'architecte garde le permis de construire parce qu'il y a des sujets juridiques là-dessus.
Oui, après, quand on s'attaque à un bâtiment haussmannien, c'est un peu compliqué de réveiller Haussmann. Mais du coup, J'entends ce que vous évoquez sur le BIM, mais effectivement cette formidable source de données. Mm-hmm. Mais on est dans un entre-deux aujourd'hui. Et comment fait-on pour faire en sorte que cet entre-deux soit réduit, ne dure pas trop longtemps? Parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y a des entreprises qui sprintent et d'autres qui mm-hmm. sont plus longues. Est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de tronc commun, une espèce de vocabulaire général qui permettrait au moins peu à peu d'amalgamer des données complémentaires, mais d'avoir ce tronc commun qui permettrait d'aller plus vite? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a... voilà, qui va se passer encore 10 ans.
Non. Je suis beaucoup plus optimiste.
Très bien, parfait.
Je ne vous aurais pas dit la même chose il y a quelques années. Hein. Moi, j'ai vu arriver le BIM. On a tous frémi à son arrivée en se disant comment on allait faire. On a tous frémi en 2014 avec la directive européenne où on a dit on allait imposer le BIM. Et au final, c'était l'incitation donc avec... la loi Pinel qui est passée, donc tant mieux. Aujourd'hui, il y a une maturité quand même, nous commençons à avoir une maturité là-dessus, un recul. C'est certes un peu plus complexe pour les acteurs qui sont les architectes et les ingénieurs. Après, pour les clients, pour les maîtres d'ouvrage, pour les exploitants, il y a des plateformes qui simplifient en fait l'accès au BIM. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit paramétrer, il y a beaucoup de données, il faut faire des choix. C'est comme tout démarrage, mais ça fait longtemps qu'on a démarré le BIM quand même. Hein. Donc maintenant, moi, j'ai l'impression qu'on est...
Vous avez un peu de recul hein?
Oui, bien sûr, on a du recul. Moi, j'ai vu l'arrivée du BIM, donc justement, chez Christian de Porzampar. J'ai eu l'impression qu'en tant qu'architecte, à un moment donné, on a... un petit peu subi ça parce que on ne savait pas comment le prendre, on ne savait pas comment surtout ne pas prendre de risques par rapport à nos engagements sur nos projets, perdre du temps, comment gérer les équipes, former les équipes. Enfin, oui, ça, il y a une stratégie à appliquer, mais bon, qui est pas insurmontable. Hein, on l'a tous fait. Après, je vous rejoins. Il y a des moyens à avoir selon la taille des agences, mais une fois qu'on acquiert cette maturité sur le logiciel et cette méthode de travail collaborative et collective, moi je vois, mais quel plaisir, hein, quel plaisir. On va vraiment plus vite et on va plus loin.
Alors, pour donner quelques exemples, est-ce que vous avez un ou deux exemples récents qui ont été produits par le groupe Cardam, qui sont pour vous des exemples extrêmement pertinents, justement, où le BIM a été utilisé, où vous voyez, je dirais, les effets induits positifs
hein? Alors, aujourd'hui, on a des exemples disparates, en fait. On n'a pas encore la chaîne de valeur qui va venir. Donc là, par exemple, on travaille actuellement sur... on a déposé à Saint-Denis un permis de construire sur une opération immobilière avec le promoteur Allios, donc 25 000 m² de bureaux. Donc une maquette BIM nous a permis la conception de cette phase-là. On va enclencher l'APD. Aujourd'hui, pour nous... C'est une force de collaboration avec les intervenants, aussi sur la conception. La réalité virtuelle, même nous, architectes, nous permet de nous balader dans le bâtiment. C'est une aide à la conception indéniable.
Bien sûr.
Indéniable. Vraiment, c'est assez incroyable. Et puis ben, après, on sent que c'est une valeur ajoutée pour l'investisseur, le propriétaire. Et on a envie de passer au BIM connecté, en fait. Le BIM va permettre l'exploitation du bâtiment, donc la GTB améliorée, s'assurer des bonnes consommations, mais aussi va permettre la connectivité par rapport à l'usage, proposer des services et permettre à l'utilisateur de demain de gérer ses services au sein du bâtiment.
Écoutez, vous m'avez convaincue. Ben écoutez, vraiment, merci beaucoup Chantal Aïra-Crouan. Vraiment, j'étais ravie de cet échange. Et ben, encore longue vie au groupe Cardam et à tous les bâtiments que vous allez construire. Hein.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.